Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Le meilleur du Super Moscato Show, c'est parti. Pendant 3h jusqu'à 18h, comme tous les jours sur RMC, jusqu'à lundi prochain. Date de notre retour en direct, bronzé et frais. Salut Adrien.
Salut Pierrot, ça va? On est un guest encore en 31 décembre.
Oui, petit lutin de Noël qui revient.
Soir de fête, jour de fête, il est là. Stephen Brown.
Salut Adrien, salut Pierrot.
Salut Stephen.
Comment tu fais pour être bronzé toi après les vacances d'hiver? Tu pars au soleil toi?
Bah parce qu'il y a des endroits où il fait très beau. Bah,
oui. Des endroits où tu vas?
Par exemple en Picardie.
En plus, il fait beau à Paris. Attention, il y a une terrasse dans Paris, hein. Donc là, il
rooftop,
est là.
Rooftop,
oui.
Ouais, rooftop comme à New York.
Est-ce que tu fais une teuf ce soir, le 31 décembre, pour rooftop?
Chez toi? Je prends le train, là, je vais à Lyon.
Non!
Ah, tu vas faire la fête à Lyon?
À Lyon.
Sympa.
Ouais.
En famille ou avec des collègues?
Avec des amis.
La ville des lumières?
Avec des amis, exactement. Ouais.
Bah, ça fait une lumière de plus, avec Lyon.
Pas sûr.
Alors, au programme, en ce mercredi 31 décembre, nous allons parler de cette Champions Cup qui fait tant débattre. Qui la joue vraiment? Le rugby toujours, les Bleus manquent-ils de grands joueurs? Et puis on va revivre à 17h un très bon moment, l'interview des deux pôles, Paul Lapeyra et Paul Sexas, le petit prodige du cyclisme français. Nous avons aussi bien sûr le journal moyen, 15h45 oui. Et 16h45.
15h45, souvenez-vous le jour où Vincent Moscato a fait son retour dans Danse avec les Stars. Oui, parce qu'ils l'ont rappelé, il est tellement mauvais qu'ils l'ont rappelé. Et puis la deuxième édition à 16h45, on aime ça, les entraîneurs de rugby qui crient fort dans les vestiaires, dans des divisions, je crois que c'était Fédéral 3 ou Régional 1, où les entraîneurs étaient complètement dingos. Et 17h45, le Kikadi, ce jour-là, l'équipe Basket Time, Dorian Brun, était en feu.
Ah,
mais attention,
ça arrive, hein.
Attention, il y a peut-être une golden carotte qui tombera. Mais vous étiez en feu, les gars.
Est-ce qu'on refera le cri de guerre pour le 31?
Il n'a pas envie.
Avant ça, allez. Je vais vous demander un petit effort. Vous vous remettez avant la semaine de tous les dangers de l'OM. Avant ce match à l'Union Saint-Gilloise et puis contre Monaco, ça tournait pas très fort à l'Olympique de Marseille. Un débat sur les difficultés de l'OM.
Cette semaine, sixième journée des Coupes d'Europe de foot sur RMC.
Et on voulait vous dire que pour l'occasion, on arrête les guéguerres débiles.
21h, Ligue des Champions.
C'est un grand match de Ligue des Champions.
Union Saint-Gilloise, Olympique de Marseille.
C'est la Belgique, donc au moins avec la Belgique, on sait ce qu'on a. Et
sur RMC, comme pour tous les grands matchs.
On a rappelé des mecs qui avaient quand même les épaules sur la tête.
De 18h à 1h30 du matin.
Il va falloir quand même qu'ils mettent un petit peu de vin dans son ego.
On doit être en vol d'oiseau sur l'analyse et prendre un peu plus de recul.
Quand t'es en confiance, il n'y a rien de pire que le doute.
Ne ratez rien.
On écoute l'émission en
Broadcast.
RMC numéro 1 sur le sport.
Faites rêver nos enfants et arrêtez de nous casser les burnes.
RMC.
Appelle la voix de sage.
Super Moscato Show.
Le conseil des sages.
Après ça, tu passes rien à le
béton. La Belgique, c'est exceptionnel.
Le broadcast est pas mal aussi.
Il a dit deux fois, non mais le doublé c'est fantastique.
Ouais,
c'est comme la viteuse. La première fois tu dis ouais, bizarre, et le doublé il est. La Belgique, il le dit deux fois. Hein.
Ouais, non, à quelle viteuse vous allez?
C'est le frère au blanc.
Vous allez à quelle viteuse? Non mais ça c'est le truc de la saison.
Mais oui, mais ça c'est des fois, la viteuse. Bon. Des fois tu te loupes pas.
Donc l'OM en déplacement chez le champion de Belgique, l'Union Saint-Gilloise, pour une place en barrage de Ligue des Champions. L'OM cette saison c'est inconstant. Il y a des bonnes périodes, voire très bonnes, et des mauvaises. En ce moment, c'en est une. Deux fois les Marseillais ont manqué une occasion de prendre la tête de la Ligue 1 après un faux pas du PSG. Alors le problème, est-ce que c'est dans la tête pour les Marseillais ou est-ce que c'est dans les pieds? Est-ce qu'ils sont pas assez bons ou est-ce qu'ils ont pas de mental? C'est la question qu'on vous pose au 32-16. Roberto De Zerbi sort d'une victoire contre Newcastle en Ligue des Champions, ça c'est bien, suivi de deux contre-performances en Ligue 1.
Il faut prendre l'habitude de ne jamais être content de ce que l'on fait, toujours essayer de s'améliorer, ne jamais lâcher le morceau. À Marseille, je l'ai dit après la victoire contre Newcastle, il faut ouvrir le parapluie quand il fait soleil. Combien de points a-t-on marqué depuis? 1. Le problème n'est pas physique, il est mental, il faut être constant, toujours.
Alors, problème mental identifié par le coach De Zerbi. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Vincent?
Bah oui, c'est bien qu'il l'identifie parce que je pense que justement il peut amener quelque chose à ce problème mental. Il suffit pas. Je pense actuellement, Eric, toi qui quand même connais un peu le football, pour ça, comme vous tous d'ailleurs, autour de ce, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vrai, tu connais un peu plus, t'as une carrière. il y a un problème de préparation avant le match. Je trouve que les jeunes maintenant, et je le disais tout à l'heure à Pierrot qui se foutait à ma gueule, mais il faut être un entraîneur aujourd'hui, un métier dans la semaine pour recentrer les joueurs avec tous les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a autour d'eux, les télés, le machin, les jeux vidéo et tout, parce que ça c'est des gamins qui ont 18, 20, 22 ans, ceux qui ont plus de bouteilles, ils ont peut-être plus de le cuir tanné, ils savent se préparer, mais pour se préparer psychologiquement à un match, je trouve que l'importance elle est primordiale dans la semaine, il est une heure, deux heures avant le match, à partir du repas si tu joues le soir, à partir du aller de la collation, à partir de 15h 16h, bon, à reconcentrer les mecs, à faire un peu de vidéo, à ne plus les lâcher. Je trouve que là il est peut-être pas fort, il n'a pas été formé à ça. Il faut qu'on appelle pas une motivation, parce que c'est vulgaire une motivation, et puis voilà, mais allez, tu vois, à ne plus les lâcher. C'est un travail sur eux-mêmes parce que c'est usant, mais je crois que tu Marseille souffre de ce problème de préparation psychologique avant les matchs, parce qu'il loupe tes premières mi-temps, parce que les mecs ils sont pas, parce que si le mec il était un quart d'heure avant, il était, parce que j'en vois même des fois à la télé, de suite ils sont sur leur portable. Tu peux pas, t'es complètement ailleurs. Ne me dis pas que t'es sur focus sur un match quand 10 minutes avant t'es sur TikTok. C'est pas possible. Mais ça, c'est des détails que personne ne souligne. J'écoute les émissions, personne ne le dit. Je te dis que ça, c'est un vrai problème de concentration. Les gamins, comme à l'école, ont un problème de concentration. C'est pas moi qui le dis, c'est les professeurs. Les professeurs, ils le disent. Les mecs, on
arrive. Il n'y avait pas de problème de concentration.
Si, mais bon, moi, il n'y avait pas les réseaux. Nous, on avait problème de tout. Quand on écrivait papa avec 3P, donc c'est différent. Mais tu comprends ce que je veux te dire, je suis persuadé, Pierrot, tu rifagnes.
Non, c'est ça. Ça dingue de dire autant de saucisses avec autant d'aplomb.
Ah oui, parce que là, tu es parti sur les TikTok. Oh, je comprends pas le débat. Je comprends pas par rapport. J'ai pas. Pierrot, j'ai rien voulu dire. J'ai rien voulu dire parce que il était convaincant. Mais je sais pas pourquoi il est parti sur TikTok et les machines.
Eric, si t'étais avec nous, je suis en face de Pierrot. Et Pierrot me regardait en disant,
qu'est-ce qu'il raconte?
Il s'est fait sabater par Vincent. Mais
j'ai rien
qui prend aussi.
J'évitais le regard de Steve.
Hey, Pusher MC Sport, les mots de l'OM, c'est TikTok.
C'est TikTok, c'est TikTok avant.
J'ai évité le regard de Steve pour pas partir en fou.
Reviens, Vincent, c'est pas grave.
Mais je te jure,
il a choisi. Il a pris du débat.
Il est parti.
Non, mais je te jure que sur le coup, je disais, mais où il va me venir.
Imagine Eric, je pensais à Mehdi Benatia dans sa voiture. Tu fais, ah ouais, il a raison, c'est ça.
Ah ouais, c'est les TikTok et tout ça.
Et Béli Benassé, il doit se dire, on va faire une boîte à téléphone. À partir de 16h, chacun va mettre son téléphone.
Allez, reviens, Vincent. Alors,
Vincent est parti. À toi, Eric.
Alors, écoute, je...
Alors, lui, c'est Instagram, là, pour Eric.
Je vais reprendre une calotte par derrière, je pense.
Alors, Pierrot, je déconnais tout à l'heure quand tu présentais le débat en disant, entre la tête et les pieds, il y a autre chose.
Le cœur.
Et je, voilà. Non, mais je rigolais, mais en réalité, pour moi, c'est ni un problème de tête, ni un problème. Enfin, quand je regarde les derniers matchs, c'est notamment les matchs, celui contre Toulouse où tu l'as passé premier, et celui à Lille contre un adversaire direct. C'est deux matchs quand même particuliers où tu dois montrer. Ou pour moi, et c'est pour ça que je dédouane le coach, parce que pour moi, le coach, bien sûr que le coach a dans la qualité de jeu, dans la suite de résultats, dans la progression de l'équipe, le coach, bien sûr qu'il a son. Mais il y a un minimum pour moi quand tu es joueur professionnel. Et notamment dans les moments, dans les momentum, comme dit Vincent régulièrement, où il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. Tu peux avoir la plus belle tactique du monde, tu peux avoir les joueurs les plus intelligents du monde. À un moment donné, s'ils ont pas le cœur, c'est-à-dire l'envie d'aller chercher la première place ou d'aller battre un adversaire direct, c'est-à-dire que là, ça rentre plus. C'est plus rationnel à un moment donné. Ces matchs-là, tu les gagnes et quand je parlais des couilles, c'est aussi, puisque lui, il a souvent ce discours-là de Zerbi. Bien sûr que ça rentre en ligne de compte. Et moi, je suis désolé. Tu peux, j'entends toutes les critiques, défense à 3, ça de trop, défense à 4, ça change, 3 milieux, 2 milieux. Moi, je veux bien tout ça. Sauf qu'il y a des moments dans la saison où il faut que tu les poses sur la table. Je suis désolé, c'est basique. Mais quand tu reçois Toulouse chez toi pour être premier, les mecs, tu dois leur sauter dessus à pieds joints. Je suis désolé. C'est, alors, après, la fatigue, pas la fatigue, dis-moi, ils sont toujours fatigués, du coup, donc alors ils étaient fatigués en septembre, ils sont fatigués en octobre,
c'est l'impression qu'on a face à Lille, Eric.
Oui, mais et contre Lille,
comment ça
et
se fait,
je parlais et quand je parlais du cœur contre Lille, dis-moi, enfin je sais, c'est pour ça que je veux dédouaner le sur certains trucs, je veux dédouaner l'entraîneur, le coach. Je veux parler de ce que moi j'ai vécu et je vais te parler de joueurs avec qui j'ai joué et je vais pas te parler des Amoros, des plus grands joueurs du monde ou des Moser qui était le plus grand libéro du monde à l'époque et tout. Je te parlerai de la culture tactique notamment. Mais moi j'avais pas besoin que mon coach, que je joue à 4 ou à 5 et que je joue la première place ou que je joue un leader, une équipe qui, moi je rentrais sur le terrain. La première chose que je me disais, moi en rentrant sur le terrain, je disais, moi mon match je vais le gagner moi mon match individuel, c'est-à-dire contre mon adversaire direct, Vincent, lui qui est dans le sport de combat, il pourra te le dire. Moi je vais déjà gagner mon match moi ce soir. Et après on va essayer de gagner le match collectivement. Mais quand chacun veut gagner son propre match, il y a quand même beaucoup plus de chances que tu le gagnes le match en truc. Et sans réinventer le football, hein, sans faire des pirouettes comme dit Vincent, des chaloupés là ou des machins. Là. Déjà rien que ça. Oh, tu vas à Lille jouer contre ton adversaire direct. Tu cours pas, Pierrot. Tu te fais marcher dessus, et après quand on me dédouane,
c'est beaucoup plus intéressant là, ce qu'il dit.
Et quand on me parle de,
c'est juste pour savoir,
quand on me parle que les joueurs sont perdus tactiquement parce qu'on passe de trucs.
Non mais ça, oui, je comprends rien. Moi ça m'énerve, ça.
Bien sûr que c'est mieux quand tu joues dans un schéma que tu es habituel.
Comme tu dis, gagne ton match individuellement, déjà ça me fera mal.
Je vais te citer un joueur qui était, il a été international, c'est un grand joueur, c'était Bernard Cazoni. C'était un défenseur central. Eh bien, Bernard Cazoni, moi, je l'ai vu jouer défenseur central dans une défense à 2, dans une défense à 3. Je l'ai vu jouer arrière-gauche dans une défense à 4 quand il arrive. Je l'ai vu jouer milieu de terrain quand on jouait à 3 défenseurs centraux qui avaient qu'un attaquant. Il montait dans le milieu de terrain, il jouait milieu de terrain. Donc QI football de très haut niveau. D'ailleurs, il est devenu entraîneur derrière. Donc moi, quand on m'explique que un mec, quand tu le passes de 5 défenseurs à 4 du week-end à l'autre, il est perdu. Bon. Il change de métier, va livrer le courrier.
Je ne connais pas grand chose au football, mais je ne sais pas si c'est intéressant, mais c'était très long. Merci Eric.
J'attends que le Dactylo finisse de taper la tirade d'Eric.
De toute façon, c'est un fou.
Mon avis, moi je pense que je suis d'accord avec Dezerbi, ça c'est un peu plus dans la tête, parce que je ne comprends pas cette différence de niveau, et je parle de niveau d'engagement et d'intensité mis sur certains matchs par l'Olympique de Marseille. Comment sur 45 minutes contre Newcastle en deuxième mi-temps tu peux être avec cette énergie là et cette intensité là, comment sur les 20 premières minutes contre Newcastle tu peux être aussi absent, comment contre Lille tu peux être aussi absent. Il y a une responsabilité individuelle du joueur, comme l'a dit Eric, et aujourd'hui tu me demandes est-ce que l'OM est une grande équipe. L'OM n'est pas une grande équipe. Une grande équipe, c'est une équipe qui, week-end après week-end, semaine après semaine, a des minima d'intensité, d'engagement, et est capable de répéter des performances match après match. Pour l'instant, qui a en mémoire un match complet de l'Olympique de Marseille cette saison? Voilà, le silence. Il n'y en a pas. Il y en a pas,
parce que même l'Ajax, tout le monde leur roule dessus.
Et le triptyque positif de Real, Paris Saint-Germain, Strasbourg, il est déjà lointain, et encore dans ces matchs-là, c'était pas des matchs complets. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on parle de progression, que Dezerbi me dise la semaine dernière mon équipe n'est pas prête à jouer 3 matchs par semaine. OK, bah là t'as une nouvelle chance de montrer que peut-être t'as progressé physiquement sur l'enchaînement des matchs. On va voir. Moi j'attends de voir ce match-là à l'extérieur où l'OM n'est pas là, où le Vélodrome n'est pas là pour te pousser dans un match où t'as peut-être obligation de résultat. Comment, dans un contexte hostile, cette équipe-là va jouer au football ce soir? Je veux voir ça, moi.
Moi, je trouve qu'on est quand même. J'aimerais quand même jouer au football aujourd'hui, parce que je trouve qu'on est très indulgent avec les joueurs. D'abord, c'est enfin, genre, j'ai jamais vu. Non, indulgent avec les joueurs. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand ça se passe mal, c'est le coach qui prend tout. C'est souvent le coach qui prend tout. Regardez, écoutez les débriefs des matchs. Chaque fois, c'est le coach qui prend tout. Voilà. Alors, il a des responsabilités, bien sûr, mais c'est quand tu es joueur, quand même. Maintenant, tu te défausses beaucoup sur le truc. Et surtout, il y a quand même des mecs. Alors, je parle pas qu'à l'OM. Il y a quand même beaucoup de mecs qui sont surcotés, parce que un très bon joueur de Ligue 1, c'est pas un mec qui passe 20 fois à côté dans une saison. Hein. C'est-à-dire que le mec il doit faire 10 très bons matchs. et 10 bons matchs, 10 matchs moyens sur les 34. Il doit en rater 4 de matchs, hein. Mais la constante maintenant dans le foot en Ligue 1, c'est que le mec, il se déchire 10 fois dans la saison et il fait 3 bons matchs. On parle des 3 bons matchs.
Allez, Tony, allez. Au 32-16. Salut, Tony, supporter de l'OM.
Salut, Tony. Salut, Tony.
Bonsoir, les gars. Est-ce que je peux me permettre, petite dédicace à monsieur Gineco qui m'a fait aimer le football et l'Olympique de Marseille. Donc, grand merci
merci, c'est gentil.
Je t'embrasse bien fort.
Tendera, parce qu'il a fait plus partir du monde du stade qu'à autre chose. Je te le dis.
Déjà, gros mytho, parce que sur la fiche de Tony, 37 ans.
Si, c'est bon.
Quand t'étais en Asie, regardez le foot. Il était à la fin, Eric.
Non, mais alors, n'oublie pas que les petits Marseillais, à la naissance, ils connaissent le football déjà.
Pour le débat, moi je pense que le problème c'est De Zerbi, hein. C'est son discours, ses choix tactiques par moment. C'est ce que je disais au standardiste tout à l'heure, il n'y a qu'à prendre l'exemple de Lille. Comment contre Lille, adversaire direct, tu dois gagner? Je te présente à Lille avec 3 défenseurs centraux, en sachant que Lille joue à une seule pointe. Et pendant une mi-temps, encore contre Lille, au milieu de terrain, peu noyé parce que les Lillois, ils sont à 3-2. Bizarrement, en deuxième mi-temps, il change, il fait sortir un défenseur, il fait rentrer un milieu de terrain. Bizarrement, contre Lille, ça va mieux. Donc moi, je pense que le problème, c'est la tête, mais c'est la tête à De Zerbi qui va pas.
Ah oui.
C'est son discours et...
Donc le joueur, il peut mettre que c'est des arbitres, juste un truc,
Tony, quand contre Angers ou contre Toulouse, donc l'occasion est magnifique, hein, de prendre la tête de la Ligue 1, pas de manière virtuelle puisque Paris a déjà joué avant. Ce sont des clubs corrects de Ligue 1, mais contre qui Marseille doit gagner à domicile. Tu vois pas une attitude au-delà du jeu, au-delà des choix de l'entraîneur, tu vois pas une attitude qui est déficiente?
Au-delà du système.
Oui, forcément, sur des matchs comme ça, il y a toujours...
Pas sur tous les
gars qui jouent, mais forcément, sur des matchs comme ça, il y en a toujours peut-être 3 ou 4 qui sortent du lot en n'étant pas bon.
Mais tu restes sur De Zerbi malgré tout.
Non mais c'est vrai que le débat sur le coach il a lieu et d'ailleurs il se fait souvent découper par les supporters. Et en effet quand tu as un effectif, parce qu'après il faut que tu t'adaptes à ton effectif. Donc si à un moment donné ton QI foot de ton équipe il est moyen, eh ben c'est sûr que essaie de pas trop leur charger la tactique tous les week-ends. Il y a pas de souci. Sauf que moi juste là où je comprends pas ce que Pierrot essaie de dire, c'est que il y a quand même un minimum syndical quand tu joues deux fois chez toi pour être premier. Il y a un minimum syndical dans l'engagement et dans l'implication de ce que tu mets sur le terrain quand tu joues pour la première place chez toi contre AG et Toulouse que je n'ai pas vu. Donc c'est pour ça que moi je peux pas, moi pour moi les premiers responsables des résultats seront toujours les joueurs et le coach, bien sûr qu'il a son truc. Là où notre auditeur a raison, c'est que il prête à critique puisqu'il fait des trucs qu'on comprend pas. Donc ça c'est sûr que ça joue pas pour lui.
Excuse-moi Vincent pour tout à l'heure, hein, parce que j'ai exagéré.
Tu n'as pas exagéré, Pierrot.
Il ne faut pas que l'auditeur abuse ce soir si jamais l'OM. Alors, il n'y a pas trop de Tony.
Tu nous parles de TikTok, des réseaux sociaux, mais il y a aussi l'intelligence artificielle.
Oui, l'intelligence artificielle. Tu n'arrives
pas à le dire.
Si.
Comment?
ChatGPT.
Tu fais un ordinateur qui parle beaucoup.
On t'embête encore. Tony, tu es toujours là, Tony?
Tony, il est là, vas-y.
Oui, je suis toujours là.
Comment va ta soeur Riga?
Riga Tony. Ça c'est le chat.
Ne réponds pas à Tony.
T'es nul, c'est pas un prénom, Riga.
Non, Tony, t'es parti en Tony.
Si, Riga, c'était le nom d'une ville, c'est le nom d'une fille.
Riga Zaraï.
C'est le nom d'une fille, ouais.
C'est Riga Zaraï.
Mais oui, bien sûr, c'est le nom d'une fille. C'est un prénom.
Riga. Prénom Riga, ok.
C'est pas courant, mais ça.
Olga, mais Riga.
Et alors, je sais pas si vous cette semaine-là. Il y a eu 2 victoires tirées par les cheveux pour l'Olympique de Marseille contre l'Union Saint-Gilloise et l'AS Monaco.
4 buts refusés.
Fou. Pour l'adversaire.
Pour l'adversaire, oui. 2 pour l'Union Saint-Gilloise et 2 pour Monaco.
Celui de Monaco, c'est un scandale, j'ai toujours pas compris, moi.
Tout corrupt ou pas, toujours?
Tout corrupt.
Alors, dans un instant, on va revivre un moment très sympa qui date d'il y a déjà quasiment un an. Nous avons reçu Boudère. Boudère pour son spectacle à l'école, là, tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Le meilleur du Super Moscato Show dans un quart d'heure qui joue vraiment la Champions Cup, il y a trois clubs français qui la jouent. Voilà.
Bordeaux,
ouais, Bordeaux, la Toulouse Rochelle. Et Toulon. Et
ah, la Rochelle la prochaine.
Ouais, ouais, ouais.
Comment
ouais.
il dit Ronan O'Gara quand il parle de la Champions Cup?
It's fucking important, guys.
Oui, parce que Stephen Brun est avec nous aujourd'hui, Pierrot.
Dans 10 minutes,
on va faire des imitations.
La saison ratée de Lewis Hamilton. Mais d'abord, nous accueillons avec un grand plaisir l'humoriste Boudère.
RMC, le cri du cœur du Super Moscato Show.
L'humoriste Boudère en tournée dans toute la France pour le spectacle à l'école. Alors c'est pas Boudère à l'école, c'est à l'école.
Ah, oui. Ah, l'école. Avec H.
Ben oui, parce qu'on a tous été à l'école. Je vois ici à des niveaux différents.
Pas,
enfin,
pas, pas tous aussi longtemps.
Bah ouais, c'est la durée. C'est la durée, moi, qui m'a gêné.
Non, je pense que les folies sur scolaire. C'était trop cher. On a arrêté en CE2.
Moi, quand on est passé au cahier Clairefontaine, j'ai arrêté. J'ai été jusqu'à l'ardoise. Jusqu'à l'ardoise.
Moi, c'est au café au Conquérant.
Guillaume le Conquérant.
Mon père, il voulait pas acheter, Guillaume, il n'était pas chevalier. Ouais. Ça sert à rien d'avoir un cahier Conquérant. Et il va venir tout à l'heure.
Oui, il va venir. On va
raconter les coulisses de l'émission. Il y a des Kimon qui partent un peu n'importe quand et c'est tombé sur Boudère il y a quelques instants.
C'est-à-dire, on explique, c'est-à-dire, on dit peut-être, tu l'as pas vu. Le mec te dit qui? Ah, tu dis mon cul. Oui, mon c'est cul. Très con, mais nous, ça nous fait rire.
C'est inquiétant parce qu'on passe parfois 5 ou 6 heures par jour à jouer à ce jeu.
Depuis qu'on est diffusé sur Arte, on se régale avec ça.
Mais quand vous jouez à ça, vous jouez avec qui?
Mais avec personne entre nous. Nous, parce qu'on n'a pas d'amis. Il s'est baisé tout seul.
Oui, tout seul. On a compris le principe. Non, mais bien là, je suis content pour vous que vous soyez passé à la télé. Longue vie à cette émission.
Merci. Et toujours en radio, bien sûr, tous les jours de 15h à 18h. Rien ne change sur RMC. Alors, Boudère demain à Compiègne et à Avignon le 18 janvier. En Belgique également, tu vas en Belgique.
Exactement.
Namur le 28, Louvain le 18 mars.
Ouais.
Les Belges, ils apprécient les humoristes français. Hein.
Public exceptionnel.
Public exceptionnel.
Qui rigole très bien. Et puis on
s'amuse. Alors, est-ce que les vannes sur l'école française, ça marche en Belgique?
Oui, parce qu'ils ont le même principe, sauf qu'eux, ils ont 6 ans en primaire.
Bah, ah oui, d'accord. Okay.
Voilà, et 5 ans au collège, et nous, c'est le contraire. Nous sommes,
Ils sont 6 ans, oui, bah, ils sont plus bons quand même. 6 ans en primaire, quand même, c'est long, non?
Oui, ben,
mais nous, on a combien, nous?
5.
Ben, 5, ah, ouais. Ouais. Moi, j'ai fait 7.
Toi, t'as fait 5.
Non, mais attends, moi, je veux bien. Toi, j'y crois pas trop quand tu vas en Belgique. Un arabe en Belgique, c'est un go fast, non?
Non. Voilà. Enfin, je l'aime, celui-là.
Bienvenue, Boudère.
Merci beaucoup. Ah, je préférais l'histoire de mon cul.
Boudère dans le Super Moscato Show, c'est exactement. Un spectacle sur l'école.
Oui.
L'école à ton époque, mais aussi l'école d'aujourd'hui avec ton fils.
Avec mon fils, ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en bien dans l'école de mon fils. Et il y a des choses qui ont changé en mal, comme le harcèlement scolaire, et j'en parle pendant le spectacle. Donc c'est un petit peu. C'est drôle, c'est sans vulgarité, c'est universel. Éducatif.
Alors, c'est sans vulgarité, c'était la question. Est-ce que c'est un spectacle familial? Est-ce que tu peux y aller avec tes enfants,
surtout
justement?
Avec ses enfants. Ben oui, il fallait le papy, mamie, papa, maman, les enfants. Ah, chose que n'avait pas Vincent quand il montait sur scène.
Je pense que Vincent, tu dois prévenir, c'est interdit au moins de 12 ans.
25.
Des fois, Vincent, il y a des enfants qui viennent.
Non, interdit au moins de 25 euros. Parce que je connais les mecs qui disent non, tout le monde peut venir, c'est pour racler de l'oseille. En plus,
pas faux, très belle analyse aussi.
Boudère, est-ce que l'idée t'est venue pendant le Covid? Parce qu'on suivait tes vidéos hyper sympas où tu faisais les devoirs à ton fils. C'était galère parfois. Hein.
Ouais, c'était beaucoup, beaucoup galère.
Parfois, c'était lui qui te donnait la leçon aussi.
Bah oui, mais parce que je suis sûr que je n'étais pas tout seul à être en galère. Hein. Et en plus, quand on aide nos enfants à faire leurs devoirs, quand on trouve la réponse, on se sent super fier. Et on se dit qu'est-ce qu'on était gros avant.
Non, oui, c'est
vrai. Non, c'est venu de là et c'est aussi venu de certains faits divers que j'ai lus quand je voyais qu'il y avait des élèves qui tapaient des profs et qu'il y avait beaucoup de harcèlement scolaire.
Mais moi, c'est-à-dire,
c'est pour ça qu'il est né ce spectacle.
Moi, c'est ma femme qui est à la maison qui fait la maîtresse. Parfois, j'ai mis des petites fessées.
Elle est là aujourd'hui. Elle est là, Christelle Moscato, dans le public.
Ah, elle est où, Christelle?
Tu lui fais là.
Bonjour, madame.
Il est affiché au bout d'heure.
Elle arrive encore à s'asseoir.
Oh, attends, s'il vous plaît, les deux. Ah, ouais. On va pas les tenir. Hein. C'est dangereux, l'association de Moscato Boudère.
Question éducation 7x7.
Oh, ça fait beaucoup.
Est-ce qu'il y a eu un déclic? Pourquoi l'école? C'est vrai qu'il y a très peu de spectacles, finalement, de One Man Show sur l'école.
Bah, le déclic, il vient de là. Déjà, il faut savoir que moi, j'ai un décor, une salle de classe, avec un tableau, une estrade, et tout.
Ça, c'est génial.
Ouais. J'ai voulu faire un gros truc. Et pourquoi l'école? Parce que les bases d'un pays, c'est l'école et la santé. Et ces deux bases-là, dans notre pays, ça va pas trop.
T'étais quel genre d'élève, toi, Boudère?
J'étais tellement fort que je changeais d'école chaque année.
Mais j'ai vu que tu avais un baccalauréat comptabilité, c'est
exactement
vrai.
Exactement,
ça se fait plus. T'écrivain, c'était long, tout ça? Non, t'as fait la secrétaire?
Non, mais j'ai fait croire au prof que j'étais sourd et muet, donc il y avait quelqu'un qui écrivait à ma place. Mais j'ai un bac compta, exactement.
J'ai bossé.
T'as eu la mention,
Et même... Ouais, mention assez bien.
Bravo. Ouais. J'ai bossé, alors Boudère, ça vient de ton sportif préféré marocain. Aziz Boudère Bala.
Le Messi, Lionel Messi du
Maroc. Mais par contre, je te posais une question, parce qu'on est avec Pierrot, on est fan du PSG.
Ah.
Il paraît qu'un fan, il y a un recruteur du PSG qui est venu te voir.
C'est vrai.
Il t'a dit quoi?
Franchement, c'est vrai.
Il t'a dit, mais c'est pour rire, c'était une connerie. Non, mais c'est vrai.
Non, mais arrêtez.
Faut arrêter de dire des conneries.
Non, mais
c'est vrai.
Je te jure que c'est vrai. Sur RMC. Je veux dire,
la main droite.
Non, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais 16 ans. J'avais 13 ans et je jouais avec les 8 ans. J'avais triché sur mon âge pour un tournoi, parce que j'étais tout petit, mais j'étais trop fort. J'étais le meilleur.
Bah oui.
Et ce jour-là, ce monsieur qui s'appelle Thierry Princé, qui est encore au PSG, quand il m'a vu, il m'a dit, je vais appeler tes parents, je te trouve trop fort, tu vas intégrer le centre de formation du PSG. Et c'était le plus beau jour de ma vie. Et j'étais voir mon entraîneur, qui s'appelait Pierre, paix à son âme. J'ai dit, Pierre, ça y est, je vais jouer au PSG. Il m'a dit, mais est-ce que tu lui as donné ton âge?
Ouais.
J'ai dit non. Il m'a dit, va lui donner ton âge. Quand j'ai dit, écoutez, monsieur, j'ai un peu triché, j'ai 16 ans, pas 8 ans. Il m'a dit, bon, c'est pas un peu. Ma carrière s'est arrêtée ce jour-là.
T'as dit, tu grandiras plus.
Ouais, là, c'était mort, là.
Non, toujours au Football Club d'Aubervilliers, tu les suis toujours?
Toujours président d'honneur. J'étais avec eux là, samedi dernier à Thionville. Et dès que je peux, je suis.
C'est quel niveau?
C'est la CEF, c'est la Nationale 2.
Correct. Votre ambition, vous voulez monter?
Oh, notre ambition, rester là où on est, parce que c'est pas mal.
Et toi, tu vas toujours te cacher en tant que président d'honneur, ou un jour tu vas dégainer, tu vas devenir président?
Oh, j'ai déjà dégainé, mais bon, les joueurs d'aujourd'hui, ça coûte cher.
Même là, ce niveau-là?
Ouais, là, ce niveau-là, il y a des joueurs qui veulent prendre beaucoup d'argent.
Ah ouais?
Alors que nous, c'est un petit club, on a des joueurs, tu sais, moi, notre latéral, le matin, il est facteur, et le soir, il est latéral.
Oui, mais ils te demandent de l'argent aussi?
Moi, personne ne me demande de l'argent, à part l'État.
Tu vas pouvoir parler avec Vincent.
Tu vas discuter avec Vincent.
Mais en même temps, c'est pour financer l'école, Boudère.
Ça ne me dérange pas.
Ça, c'est important. Quand tu vois ça qu'on a maintenant, je préférerais, moi, les financer.
Boudère, t'aimes bien le PSG? T'es fan du PSG?
Alors, je ne suis pas fan d'une équipe en particulier. Mais j'aime bien le foot amateur, et vraiment.
Tu es copain avec Kylian Mbappé. On a fait des dizaines de débats sur Mbappé, nous.
Ouais.
En parlant de foot amateur.
Est-ce qu'on va retrouver, toi tu le connais bien, tu connais un peu dans le privé, est-ce qu'il va retrouver son niveau auquel il était il y a deux ans? Là, hier, il était très fort face au Barça.
Je crois qu'on se rend pas compte.
T'as eu des doutes, toi?
Vous savez à combien de buts il est déjà maintenant?
Oui.
C'est énorme.
Mais il est moins rayonnant qu'il y a quelques
mois. Les gens, ils pensent que Mbappé va prendre le ballon, il va dribbler tout.
2022.
Et il va marquer maintenant.
Il nous habitue à ça.
Ouais. Non, même au PSG, c'est pas ça.
Au début,
ouais, mais les gars, une fois, au début, on le connaissait pas. Maintenant qu'on le connaît, les défenseurs font attention. C'est comme Barcola. Maintenant, les défenseurs font attention, donc il est un peu moins
surveillé.
Mais voilà. Après, je pense que on a vraiment un super super grand joueur en deux.
Est-ce qu'il est fâché avec Deschamps?
Est-ce qu'il est fâché avec qui?
Tu sais, avec Didier Deschamps.
Mais vu que t'avais toutes ces questions, fallait l'inviter, lui.
Il est à Madrid, il peut pas.
Il parle d'Mbappé,
l'autre.
On préfère t'avoir à toi, c'était plus facile à tordre.
Non, je pense que. Alors, je vais dire. C'est
pas un bon mec, quand même, tu me disais.
Non, les deux, je les aime beaucoup. Mbappé, c'est un pote, mais si je vous dis de quoi je parle avec Mbappé, vous serez étonnés. On parle beaucoup des enfants qui sont hospitalisés.
Mm-hmm.
Et ça, c'est un truc qui nous tient à cœur, comme moi, ça me tient à cœur. Et on parle beaucoup de ça. Moi, je parle pas de football.
Si t'arrives à 8h jusqu'à 2h du matin, vous parlez de ça, des enfants hospitalisés? Parce que tu me le dis, je viendrai jamais.
Parce qu'à 2h du matin, ensemble. Mais les peu de fois où on se croise, on parle beaucoup de ça et de spectacle. Il est gentil.
Est-ce qu'il paraît qu'il picole un peu?
Alors,
tu me disais, en antenne, il prend des caisses, il aime le rouge comme un âne. Après, il se voit un poil, il fait l'hélicoptère avec son nœud.
Merci de m'avoir invité, en tout cas. C'est un très bon moment.
Mais non, tu
construis sur des bruits de couloir. Les couloirs sont longs.
L'humoriste Boudère, invité du Super Moscato Show.
Pas de menace. Tu l'as reconnu, Pierrot.
Pour le spectacle à l'école.
Il est avec toi, là, dans le spectacle?
Qui ça?
Ah, mon cul.
Stephen, magnifique, Stephen.
Stephen, très discret, mais chirurgical.
Qu'est-ce qu'ils sont forts? Non, mais c'est
chirurgical. T'as remarqué que dans le Moscato Show, bon, les interviews sont un peu différentes. Donc, on va revenir à du classique. Ok, c'est même toi qui vas choisir ton interview. Donc, il y aura le choix entre quatre interviews différentes. Tu vas choisir toi-même de passer un sale quart d'heure ou d'être plus tranquille. Ouais. Tu vas choisir entre une interview Jean-Jacques Bourdin, les yeux dans les yeux. Une interview Mediapart. Une interview Mouloud Achour ou une interview Anne-Elisabeth Lemoine. Qu'est-ce que tu préfères?
Qu'est-ce que c'est?
Il y a des styles différents là quand même. Hein.
Qu'est-ce que
Jean-Jacques Bourdin, si t'as de l'argent en Suisse, faut pas choisir Bourdin. Hein.
Bah, alors, Mediapart non plus, non?
Ni Mediapart.
J'ai rien à craindre. Hein,
si tu veux être plus tranquille, c'est Mouloud ou Anne-Elisabeth Lemoine.
Eux te disent rien en général demain.
Mouloud.
Je sais pas moi.
Bon, mais tu sais qu'il te manque une branche là.
Mais oui, mais.
Personne qui te dirait ici.
Bon, allez, Mouloud Achour, attention, Mouloud Achour,
c'est incisif, hein.
C'est incisif et c'est chaud. Parce que Mouloud Achour, il a des coronesses. Hein. Il n'a pas peur de te rentrer dans la tronche. Première question.
Et qu'est-ce que tu veux que je dise?
Tu as beaucoup souffert dans ton enfance en banlieue.
Alors, ça c'est une vraie question, Mouloud Achour, ça.
C'est une question de garde à vue. Moi, j'ai pas grandi en banlieue, j'ai grandi à Paris même. J'ai traîné en banlieue, oui, parce que le football, parce que plein de choses. Et non, j'ai pas beaucoup souffert.
Alors, tu connais Vincent Bolloré, hein? Tu le connais?
Alors, pas personnellement.
Tu sais qu'il est très sympa dans la vie.
Mais je ne connais pas personnellement. Vincent Bolloré. J'ai bien fait de
venir. Alors, attention, il y en a une qui me tient à cœur, c'est, tu es d'accord avec moi, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est Mouloud Achour qui parle.
Il en a pas, lui.
Mais lui, il est collé.
Il n'y a pas un euro.
Attends,
je rigole.
Bravo, merci.
Bon, Guillaume Boudère.
Boudère, il est très marrant. Ouais. Il est bon en répartie, quand même.
Et puis, ces deux mecs ont été très loin dans les études, Boudère et Vincent.
Comme toi, d'ailleurs.
Oui, mais moi, c'était voulu.
Le bac, c'était pas vraiment voulu, quand même. C'est un refus d'obstacle, ça s'appelle. Hein.
Oui, mais tu vois, j'avais quand même.
Tu regrettes aujourd'hui?
Non.
Non,
ça m'aurait servi à quoi,
pour faire
ce que je suis en train de faire.
Tu veux pas le passer là plus tard?
Candidat libre,
ouais.
Oui, je m'inscris au CNED. Ouais.
À l'époque, tu savais déjà que tu serais basketteur professionnel?
Je le savais pas, mais c'était mon but.
Non, mais tu n'étais pas sûr d'y arriver encore.
J'avais 18 ans, j'étais entre le groupe professionnel et le groupe du centre de formation. Je faisais un peu les deux, donc je me disais, bon, allez, je suis pas loin, on va aller jusqu'au bout. Quoi.
Est-ce que Lewis Hamilton a le bac? Je pense pas.
Je pense.
Tu penses?
Ouais, mais il a la tête bien faite, ce jeune homme.
Il est plus si jeune. Il a la tête bien faite, il a pas le bac.
Lewis Hamilton. Première saison chez Ferrari, le bilan dans le Super Moscato Show.
Arrête Adrien.
Le cri de gueule du Super Moscato Show.
Notre cri de gueule, c'est la saison ratée de Lewis Hamilton pour sa première chez Ferrari. Souvenez-vous quand même l'engouement qui était le nôtre lorsqu'il a annoncé sa signature un an avant. Alors, on va faire le point sur cette première saison avec Louis Gerbier. Salut Louis.
Salut Louis.
Nice to les types.
Alors là, c'est la chute de la pyro, mais Louis Gerbier pour parler de Formule 1.
La cheville ouvrière de grande gueule quand même.
Gerbier qui nous donne de l'innovation durable à l'armée des hommes.
C'est le seul qui bosse le matin hein, dans les grandes gueules. Ouais.
Hein. C'est le seul de gauche surtout.
Là, il y a de la feignasse.
On le dévite. C'est pas la gauche énervée.
Non,
extrême centre.
C'est la gauchouille. Extrême centre. J'ai jamais rien compris.
Le bilan de la première saison Ferrari de Lewis Hamilton, Louis.
Alors, trois éliminations consécutives dès la Q1, c'est comme ça que Lewis Hamilton a terminé sa première saison chez Ferrari. De rêve de gosse réalisé au cauchemar de la réalité, le septuple champion du monde a affirmé avoir passé sa pire saison jamais vécue en F1. Lucide, puisque le Britannique termine pour la première fois de sa carrière une saison sans podium en Grand Prix, a compté tout de même deux podiums en course sprint, dont une victoire en Chine fin mars, qui laissait présager de bonnes choses. Il n'en fut rien. 3-4e place en guise de meilleur résultat. Inédit également, une qualification en dernière position sur la grille de départ part à Vegas. 156 points au classement pilote, son pire total depuis 2009, où il y avait pourtant 7 Grands Prix de moins. Et une comparaison avec son coéquipier Charles Leclerc qui fait très mal. Sur 24 qualifs, il a été battu 19 fois par le Monégasque. Il n'y a qu'un chiffre cette saison qui peut redonner un brin de sourire à Lewis, c'est son salaire, car je sais que vous aimez de parler de l'argent des autres ici. Il gagne 80 millions d'euros par an, soit 1,5 million d'euros par semaine, Vincent.
Moi, tu sais quoi? Pour moi, il a réussi sa saison.
Est-ce qu'il est rincé? Est-ce qu'il est cuit? Est-ce que c'est fini?
C'est un peu, ça s'est transformé Ferrari en cimetière des éléphants pour lui, quoi. C'est un peu la fin, j'ai l'impression que
il faut prendre des risques à ce sport, et en vieillissant, il les prend plus, même si la machine c'est pas la meilleure, mais enfin, Leclerc, il tourne bien avec sa mécane, donc tu peux te dire qu'il aurait pu, un mec comme lui, mais là, je pense que c'est trop régulier dans le mauvais pour pas se dire qu'il est rincé, quoi. C'est-à-dire, c'est un sport quand même de dingue, hein. Faut pas avoir peur, faut pas avoir froid aux yeux, hein. C'est des mecs comme Verstappen qui gagnent. Norris, on disait justement qu'il était un peu timoré, un peu timide, un peu genre, trop genre idéal pour gagner. Il a fini par gagner au bout de 7 ans. Mais lui, je pense que ça y est, à 40 barreaux. Elle est morte. Mauvais choix pour Ferrari.
Très mauvais choix pour Ferrari,
très coûteux parce qu'il se le traite mal encore en contrat pendant un an.
Je sais pas comment ils vont s'en dépêtrer.
Ils sont obligés de se le coller encore pendant un an.
Moi, je suis un peu déçu parce que c'était le transfert du siècle et on a fait des caisses. On était tous ultra excités de voir Lewis Hamilton arriver chez Ferrari. Les gens me disent oui, mais la voiture était pas bonne et peut-être qu'on a pu favoriser Leclerc Hamilton. Enfin, quand tu donnes 80 bâtons à un mec,
mais qu'il favorise,
je pense que la voiture, tu fais en sorte qu'elle marche bien. Et puis la meilleure comparaison, c'est avec son coéquipier. Bah, il n'a pas existé face à Charles Leclerc. Donc, moi, ce qui m'a le plus gêné chez Lewis Hamilton cette saison, c'est son attitude de renoncement et d'abandon. J'ai l'impression qu'il a lâché l'affaire. Plus la fin de saison arrivait, plus il a abandonné, plus envie de se rebeller, d'essayer des choses.
L'œil du tigre, il a plus. C'est fini.
Plus rien. L'œil du veau de la misère.
Voilà, le veau.
Donc, c'est plus ça qui m'a déçu.
Faut l'amener au pré.
Quand je vois comme il y a des pipes de Sainz avec sa Williams toute pourrie qui a même fait, qui a gratté 2 podiums, je me dis que finalement, Lewis Hamilton, peut-être que la voiture était pas bonne, mais il a pas été suffisamment bon.
Eric.
Il y avait ça à raison, parce que c'est quand même un sport où tu joues ta vie. Et rappelle-toi, je sais plus quel pilote disait ça, à un moment donné où, sur un virage, sur un bout de ligne droite, au freinage, il fallait aller chercher la corde pour passer. Il disait, je savais que j'allais passer parce que lui venait d'avoir un enfant, alors que moi je suis seul dans la vie.
Mais c'est la
réalité de ce métier-là.
Ça fait peur, ce métier.
Et c'est pour ça que l'autre hier, quand on parlait de titres, j'ai beaucoup de respect pour ces mecs-là parce qu'ils jouent leur vie. Alors même si ça c'est plus la boucherie que c'était à une certaine époque, les mecs jouent leur vie. Et quand tu as pas fait, ou en tout cas quand tu as entre guillemets, parce que tu as plus faim et que peut-être que la fraction de seconde qui te fait passer du bon côté, tu l'as plus. Et c'est pour ça que là c'est peut-être la. Et d'ailleurs ce que dit Steve sur la résignation dans ses propos, ça ressemble presque peu au chant du cygne là, ou à la mort du cygne. Je sais pas comment on dit là. Donc c'est possible que on revoit plus la Hamilton qu'on a
connu. Les réseaux sociaux, il est sur TikTok.
Je pense que ça vient de là.
Louis, juste, est-ce qu'il n'y a pas une raison d'espérer, parce que là on est en train d'arrêter sa carrière là. Juste l'année prochaine. Prochaine saison, changement total de règlement, de réglementation sur la Formule 1, c'est une révolution.
Il fallait la révolution à fin, on en avait 50.
C'est du jamais vu. Tout repart de zéro, même au niveau des machines.
C'est des boîtes manuelles.
Est-ce que on peut pas espérer, Louis? Imaginons, Ferrari travaille bien et s'adapte le mieux à la nouvelle réglementation. Est-ce qu'il n'y a pas un espoir là-dessus?
Bien sûr qu'il y a un espoir.
Il mise tout là-dessus, Hamilton.
Exactement. Après, ça fait une quinzaine d'années maintenant que Ferrari ne travaille pas très bien alors qu'il y a une nouvelle réglementation. Donc voilà. Mais en revanche, cette saison, ils ont fait un choix, un pari. Depuis avril, ils ont passé toute leur force de travail sur cette saison-là. Ouais. Donc il y a un vrai all-in qui a été fait par Ferrari.
C'est un pari.
Et c'est clairement ce qu'attend avec impatience les pilotes Fred Vasseur et toute l'écurie.
Et là on verra,
parce que voilà, c'est le même Leclerc l'a dit hier, c'est cette saison que jamais pour Ferrari.
C'est une révolution.
Il n'y a plus d'effet de sol, ils réduisent les monoplaces,
ils changent les batteries qui sont plus légères,
ils font évoluer les moteurs aussi.
Ils mettent un moteur de 49
fin du DRS. Rappelle-nous ce qu'était le DRS.
Le DRS, c'est le drag reduction system qui, dans une ligne droite, tu vas lever ton aileron, ce qui va réduire la traînée et te faire aller plus vite. Tu peux le déclencher quand tu es à une seconde du pilote juste devant toi pour pouvoir le doubler.
Ça, c'est fini.
Facilement. Mais ça va être fini, mais il y aura un aérodynamisme dynamique.
Et un système qu'il a aussi pour booster.
Ce que j'attends de voir, c'est les foils qu'ils rajoutent sur le côté.
On
la Marina à Abu Dhabi,
on n'a jamais connu un règlement aussi radical.
Oui,
c'est peut-être la chance de Ferrari, Eric.
Non, mais justement, c'est pour ça que quand hier avec Jean-Luc.
Ils n'ont pas travaillé là-dessus aussi.
Voilà, non, oui, et puis, et c'est peut-être la chance, en effet, de Ferrari. Les écuries puissantes, et notamment les grandes marques ancestrales qui ont beaucoup de moyens et qui ont
un jour,
beaucoup
hein.
de recul, voilà, même si tu repars de zéro, il y aura toujours des mecs qui seront quand même
en avant. Les beaux, voilà. Ça, on a vu quand même Leclerc bien plus à l'aise que Hamilton.
C'est ça. Non, mais tu sais, il y a. tu sais, il y a un débat obligatoirement après ce qui s'est passé cette saison pour les haters entre guillemets, en tout cas les ceux qui étaient pas fans d'Hamilton, qui diront toujours. Il a été champion avec la voiture qui était la plus forte, champion, et surtout avec une voiture qui était faite pour lui. Dès qu'il arrive, quand il sort de sa zone de confort avec une voiture qui n'est plus la meilleure et qui n'a pas été faite pour lui, d'un coup, il rentre dans le rang. Et malheureusement, ce débat fait ce débat. Je ne sais pas si ça vaut le coup de l'avoir, mais en tout cas, il y a des gens qui l'ont.
Et la semaine dernière, on avait déjà vu un peu le déclin de Lewis Hamilton, parce que avec Russell, oui, Pierrot, qu'est-ce qu'il y a qui est marrant ?
Là, il y a une réaction, parce que là, on fait un crossover avec les grandes gueule. Ouais. Donc il y a Guy Bolt qui vous propose un débat pour demain. Est-ce que les mécaniciens Ferrari sont des fainéants qui profitent des prestations sociales sans bosser? Réagissez tout de suite en envoyant GG au 732.
GG, Guy, c'est le plus fort.
Vous êtes fan de Formule 1? Si Lewis Hamilton était dans la McLaren de Norris depuis le début de la saison, est-ce qu'il serait champion du monde?
Non,
ça aurait
été Piastri.
C'est vrai? Vous pensez vraiment?
Je sais.
Merci Louis. C'est pas si mettre l'antipare ésotérique derrière au cul au pare-choc. Tu penses qu'ils vont le mettre l'an prochain?
Il est mort en Louis.
Le pot d'état, tu connais le pot d'état.
80 millions d'euros par an quand même.
C'est correct.
Mais est-ce qu'il est cramé, Hamilton?
Est-ce que la carrière de Lewis Hamilton ne s'est pas arrêtée face à Max Verstappen en 2021?
J'ai l'impression. Hein.
Peut-être. Mais attention, on en a parlé dans le débat, tout va changer. Nouvelle réglementation, donc on ne sait jamais, aussi bien les Ferrari vont tout.
Ou Dacia.
Allez, dans un instant, Journal Moyen, première édition sur RMC, c'est le Super Moscato Show jusqu'à 18h.
RMC 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Le meilleur du Super Moscato Show continue jusqu'à 18h. Il est 15h45, Journal Moyen, première édition.
À la une de ce Journal Moyen, première édition sur RMC, l'actu, la culture, les médias, la vie animalière, un sanglier s'est introduit sur un plateau de TF1 vendredi soir en prime en direct, notre grande surprise générale. Des nouvelles George Clooney, on passe à deux styles différents. Puis Artus, un ami du Moscato Show, un ami du rugby, se lance dans un pari totalement fou. Vous écoutez RMC, vous regardez RMC Story, vous pouvez constater que Vincent ne s'est pas rasé depuis 3 semaines. C'est le 2163e Journal Moyen.
Excusez-moi d'avoir du travail.
De l'histoire du Super Moscato Show, feignasse.
En direct du plateau 1 d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le Journal Moyen. Première édition.
On débute avec l'événement télé du week-end. Je ne pensais plus pouvoir te dire ça un jour. Danse, Vincent, danse. C'était la surprise du chef et Vincent, bravo. Alors je sais pas, moi j'étais pas là vendredi, mais Pierrot, a priori Vincent avait bien gardé le secret. Vendredi soir sur TF1, 3 millions de Français regardent Danse avec les Stars. Ton ami Franck Leboeuf y participe avec la danseuse que tu connais bien. Tu as fait Danse avec les Stars avec elle, Candice Pascal. Ils devaient se battre les deux pour éviter l'élimination. C'était une spéciale danseur mystère. Tout au long de l'émission, des danseurs surprises apparaissent, donc par surprise, et dansent avec les couples. Et donc là, le danseur mystère censé faire la surprise à Francky et à Candice, c'était notre 20-20 dans le petit sujet qui précède. Ils ne sont pas au courant, hein. Il enlève son masque. Ils ne sont pas du tout au courant. Vincent se présente face caméra. Écoutez, juste le petit rire gêné à la fin. On adore ça, c'est sa spécialité.
Je suis un ancien rugbyman, un ancien sportif. Franck, on a bossé ensemble. Il venait parfois dans mon émission qui s'appelle le Moscato Show. C'est un copain. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'être son danseur mystère. On a beaucoup de points communs sur notre conversion, sur le sport, parce qu'on a le même coiffeur, tu vois.
On a même coiffeur, forcément. C'est sympa pour Francky. Et donc, ils ne sont toujours pas au courant. Début de la danse de Franck et Candice.
Sur un passo-doble, Franck Leboeuf et Candice Pascal.
Alors là, c'est le grand spectacle. Ils sont pas mal. Franchement, c'est une ambiance hispanisante. Référence à la tauromachie. Et sans prévenir d'un coup, un peu boudiné, Vincent Moscato fait son apparition. Franck n'en croit pas ses yeux. Vincent déboule, Vincent danse comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, boudiné dans sa tenue de torero. Très raide, on sent que Vincent n'a pas du tout travaillé sa performance, ou alors 5 minutes, à la maison devant Christelle, son épouse. Bravo 20-20. Fin de la danse, on sent que Camille Combal est très content de retrouver son candidat favori de Danser avec les Stars.
Bravo.
Je suis très content parce que ça faisait un moment et Black Swan est de retour sur le parquet. je vous parle en français ou en espagnol, je me rends pas compte.
Hey Camille, en vrai Camille, tu chambres beaucoup. Tu chambres beaucoup, mais si je ne me trompe, toi, quand tu danses,
fais-moi le malin.
C'est quand même pas fou. Si je me rappelle, il y avait un truc avec Moscato il y a quelques années, non?
Ouais.
Ah oui,
j'ai brûlé les bordes.
Non, t'inquiète, on les a, elles sont là.
Oui, puisque Vincent et Camille Combal avaient dansé ensemble, et c'est vrai que les deux sont nuls en danse. Vincent, bravo, oui. T'as bien gardé le secret là. Belle surprise pour Francky là.
Ouais, c'était plutôt sympa, ouais.
Pas beaucoup de boulot là quand même, non?
Ah ben non, mais parce que bon, j'ai fait une heure d'entraînement, mais bon, moi que j'en fasse une ou dix, j'ai pas quand même des grosses vertus, des grosses qualités pour danser. Mais bon, voilà, après c'était une greffe à la fin, toi ouais. C'était juste un clin d'œil. Après j'allais pas m'entraîner non plus. Ça me, c'est, voilà quoi. Tu
t'as vois, pris 40 000 encore?
Non, rien.
Ce qui est génial, c'est la tête de Francky qui dit ah non, mais il va saccager ma danse là, il y a Vincent qui arrive, qu'est-ce qu'il fait là?
D'ailleurs, ça lui a été fatal. Il a été éliminé. Il y a eu deux victimes. Oui, deux victimes, Franck Leboeuf et Forman. Quand il a vu, Forman, il est mort pendant la nuit quand il m'a vu danser.
Mais il se débrouille, Franck, non?
Franck, il non, pas, il se débrouille. Ouais. Tu sais quoi, Franck? Il se débrouille. Il est sérieux. Il a bossé. Il est passé 5-6 tours. Il a bossé, mais il s'est claqué la semaine dernière. Il s'est planté.
Il est blessé.
Donc, quand t'es blessé, tu peux. Là, c'est 4-5 heures. Il s'entraîne 3 heures, 4 heures par jour. Tu peux pas faire la chorégraphie, donc tu dégages.
Et Candice, elle avait arrivé, Vincent, elle s'est mis à 3 mètres parce qu'elle a les pieds qui ont morflé il y a quelques années.
Elle a passé un mois et demi avec moi, elle avait les orteils bleus, je te le dis. Et elle a fini avec des panaries.
À un moment, Vincent, tu réponds à une petite interview sur scène. Tu dis que tu étais comme une plume sur scène. C'est l'heure du verdict du jury. Le verdict de Jean-Marc Généreux qui a adoré.
C'était un passo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et là, Vincent Moscato arrive, c'est la cerise sur le gâteau. Il a dit comme une plume. J'étais un peu confus, c'est peut-être plus comme une enclume. Bon, ben bref. Cela dit, elle a eu, j'ai envie de dire, toutes les tables. A eu le bœuf et le taureau. C'est quand même le Moscato chaud. C'était vraiment très très beau.
C'était très très bon, voilà Vincent. Dans les tables, il y avait le Moscato chaud. Bravo.
C'est bon, bah, c'était un clin d'œil, c'était drôle. Bien sûr que la chorégraphie, bon, voilà quoi.
Ouais, bon, on la retiendra pas. Je peux pas trop diffuser, mais j'ai les rushs de répétition de Vincent dans son appartement chez lui, filmé par son épouse. Elle est catastrophée, aucun effort, il fait son chausson, c'est horrible.
J'ai pas de tutu à la maison, ni de chaussons de danse.
T'as pas de tutu à la maison? Oh, à l'époque, tu mettais des tutus,
mais
sans devoir
les sortir. Je mets pas pour les danser.
Ah, Fifi a déjà vu, en tout cas, apparemment.
Fifi a déjà vu Vincent tutu.
C'est que le samedi soir que je l'utilise.
Ah, coquin, sans transition, après la danse, le cinéma. Des nouvelles du sosie de Denis Charvet. George Clooney, 63 ans. 63 ans, vous allez trancher. Fausse modestie, bluff, lucidité. George arrête. George Clooney a décidé d'arrêter un certain genre de rôle au cinéma. Il se confie à 60 minutes, il explique sa décision. Et il nous dit, j'ai 63 ans, je n'essaie pas de rivaliser avec des acteurs de 25 ans, ce n'est pas mon rôle. Je ne ferai plus jamais de films romantiques. Uh-huh. Est-ce qu'on le croit? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Oui, est-ce qu'il reviendra en arrière?
Ouais.
Vincent, toi qui es acteur?
Eh ben moi, si j'ai une annonce à faire, je veux bien prendre sa place.
Mais c'est pas une question d'âge, les comédies romantiques.
Si, après, tu viens
sur la route de.
Il a 63 ans, il devient papy.
Denis, moi je suis pas d'accord. Il peut faire des comédies romantiques, mais pas les jeunes premiers.
Ah oui.
Il peut avoir une histoire d'amour, d'un remariage, de quelque chose, d'un gars sur le tard qui pousse une fille qui a 20 ans de moins et qui voudrait avoir un enfant, mettons, tu vois, Denis. Tu vois.
Et c'est pas bon ça.
Il fait des bœufs bourguignons à son chien.
Oui, et ça peut donner une comédie romantique à n'importe quel âge. Et je trouve qu'il y a encore, il a la gueule pour un. Alors, bien entendu, à 80
ans. Il est genre classe. Il est classe.
Dis-moi, Vincent,
est-ce que tu vas.
Il est classe, alors bien entendu, pas des scènes de nu, pas des scènes comme si c'est Brad Pitt à la grande époque. Ou lui. Mais différemment, il peut le faire.
Il a le début de la sucrine, Vincent. Il a le début de la sucrine.
Ah, c'est ça. La sucrine.
Vincent, est-ce que toi, tu vas arrêter les rôles de vigile?
Oh,
ah oui.
Oh,
non, ça non, c'est pas gentil.
C'est pas moi,
ça.
C'est pas
ça,
de moi.
C'est un coup de poignard.
Je me rends, mais
c'est pas beau, ça.
Le meilleur exemple, il avait 65 ans à l'époque, Clint Eastwood, sur la route de Madison en 95.
Exceptionnel.
65 ans, il avait.
Ah non, c'était exceptionnel. Ouais,
c'était limite après.
Mais non, mais tu le joues dans ce.
C'est limite.
Mais il faut que ça se joue. Il faut que ça se joue dans ce rapport, comme ça. Bien entendu, que tu le vois pas au cadre, tu vois. Il faut que ça soit vachement.
Voilà. Et pourquoi pas au cadre, Vincent?
Ouais, non, après, à un moment donné, tu marches plus. Quand toi, tu vas au cinéma, tu veux voir si tu vois un set, tu veux voir un beau set, tu veux pas voir un gars de toilette.
Pierrot, enchaîne, s'il te plaît.
Ouais, bon, on va rien dire. Hein.
Comment on va, Vincent, dans Danse avec les stars? Je rappelle chaque année, quasiment chaque année.
Meilleur que Franck Leboeuf?
Alors, Francky, un peu raide aussi, hein.
Ouais, mais pourtant, il a des sketchers sur pied. Donc
c'est vrai, c'est vrai.
Bon. Quand cette émission rappelle Vincent tous les ans, est-ce que c'est bon signe pour Vincent ou mauvais signe pour l'émission?
C'est mauvais signe pour l'émission,
ouais,
non?
Je pense, ça veut dire qu'ils ont du mal à se renouveler, non?
Cette année, Laure Manaudou dans la nouvelle saison.
Ouais.
À venir, hein, on n'a pas encore la date exacte, mais elle est là, Laure. Hein.
Allez, dans un instant, on va débattre de la Champions Cup du niveau des joueurs français internationaux en rugby. C'est le Super Moscato Show. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.